Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur vous convient. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Seigneur, je t'offre, mon Dieu, je t'offre.
Seigneur, je t'offre, mon sacrifice.
Tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre.
Seigneur, je t'offre, mon sacrifice. Tout ce que j'ai.
Seigneur, je t'offre.
Seigneur, je t'offre mon sacrifice. Tout ce que j'ai, ce que je Seigneur, je t'offre mon sacrifice.
Dieu, mon roi, mon sauveur et mon berger. Je m'abandonne entre tes mains. Fais ta volonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons acclamer notre Seigneur, notre Dieu. Et nous voulons nous rasseoir dans sa présence, Seigneur. Reçois l'amour d'un peuple qui t'aime. Nous t'aimons, Jésus. Est-ce qu'on peut dire à Jésus qu'on l'aime? Dis, Jésus, je t'aime. Je suis amoureux de toi, mon Jésus. Alléluia. Merci. Amen. Merci, Seigneur, pour ces instants. Alléluia. Merci, Jésus. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier un certain nombre de leçons, donc 10 en tout, pour permettre à ce que nos temps d'épreuve et les difficultés que nous rencontrons soient transformés en oasis. Ou encore, pour nous donner de tirer le meilleur des épreuves que nous connaissons. Dieu ne fait pas souffrir ou ne permet pas que tu passes par la souffrance de manière délibérée. Il n'est pas contre toi. Aie confiance en la parole de Dieu. Ton Dieu te dit, les projets qu'il a établis pour toi sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Donc Dieu ne peut pas vouloir que tu connaisses le malheur. Jésus a dit encore ceci. Si vos parents, qui sont déjà même les humains, qui sont un peu mauvais, savent donner une bonne chose à leur enfant, quand ils leur demandent une bonne chose, ils ne donnent pas de mauvaises choses, à plus forte raison, moi Dieu, ça veut dire Dieu dit qu'il est meilleur que nos papas, il est meilleur que nous les papas. Moi je suis papa aussi, j'ai 4 enfants. Dieu dit, et je pense que je suis, Dieu me fait la grâce d'être un peu un bon papa. Mais Dieu dit, bon, m'embête, écoute-moi, je suis mieux papa que toi, ok? Je suis meilleur papa que toi. Donc, si ce que tu ne peux pas faire à ton fils Brady, à ta fille, je ne le ferai pas. Il dit, si un papa ne peut pas donner un serpent à son enfant, qui lui demande du poisson, or les hommes, il y a encore de la méchanceté dans votre cœur, à plus forte raison, moi Dieu. Donc, ce que tu vis et tu traverses, ne peuvent pas être un choix de Dieu. Je vais te faire souffrir. Voilà, et puis je suis content. Dieu au ciel. Il dit, ça c'est super quand tu souffres comme ça. Moi, Dieu, je suis content. C'est ma volonté. J'aime la souffrance. Souffre, souffre, souffre. Non, Dieu n'est pas ainsi. Amen. Mais de même qu'un parent, pour que son enfant devienne mature et puisse prendre possession, par exemple, de l'héritage ou puisse travailler convenablement dans la vie professionnelle, un papa va l'envoyer à l'école. Et à l'école, il y a des épreuves. Il y a des épreuves pour passer les examens, il y a des épreuves pour passer les choses. Et l'épreuve, ce n'est pas toujours quelque chose qui est agréable à l'enfant, mais c'est indispensable, c'est nécessaire à sa formation. C'est nécessaire qu'il soit coaché, c'est nécessaire qu'il le mette à l'épreuve, qu'il mette devant un test ce qu'il a appris. C'est nécessaire que tu passes par là. Amen. Mais une épreuve peut te détruire si tu la gères mal. Par contre, tu peux tirer le meilleur d'une épreuve. Le but de cet enseignement, c'est de nous donner de tirer les meilleurs des épreuves, de nos épreuves. Et il y a 10, les épreuves viennent en nous, les épreuves scolaires, ou bien les épreuves spirituelles cette fois-ci. Amen. Les épreuves de la vie viennent en nous sous forme de 10 manières. Donc, ce sont les 10 épreuves. Et nous sommes en ce moment à la 4e épreuve. Alléluia. Au 4e désert. C'est la 4e épreuve d'Israël dans le désert. On a déjà étudié les 3 précédentes. Je vous conseille, pour ceux qui avaient... je vous conseille de prendre les précédents. Ils sont riches, ils sont très importants pour votre vie. Parce que tout le monde est confronté à l'école de Dieu. Et celui qui va venir vous tester, ce qui est bizarre. En tout cas, celui qui vient tester, souvent c'est le diable qui est derrière, en train de donner l'épreuve. Mais Dieu sait que ce qu'il a déposé en toi est suffisant pour terrasser les projets du diable. Dis amen. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a cette épreuve, la 4e, qu'on appelle la longue attente. L'épreuve de la longue attente. C'est une épreuve simplement où Dieu te fait attendre longuement l'accomplissement d'une promesse. C'est ce qu'on appelait le désert 4, le désert des longues attentes. Donne un bon amen à Jésus.
Amen.
Donne un bon amen.
Amen.
Amen. Donc tu vas attendre longuement. Attendre quoi? L'accomplissement d'une promesse. Hier, on avait la réception des nouveaux ici. Ceux qui étaient là depuis juillet 2013 jusqu'à décembre. Et c'était un bon moment, chacun a l'occasion de me poser beaucoup de questions. C'était très interactif. Après, on a eu un cocktail à l'extérieur. Je causais avec tout le monde, on riait, tout le monde était bien. C'était vraiment bien. Hein, les nouveaux de cette période qui ne sont pas venus, vous avez manqué. Peut-être on va recevoir après les nouveaux de début janvier jusqu'à mi-2014. Amen. Voilà, tu peux plaider pour participer. C'était une superbe rencontre. Alléluia. Voilà. Et pendant ce temps d'échange avec les frères, quelqu'un m'a abordé, m'a dit, mais pasteur, on parle des promesses, mais comment est-ce qu'on reçoit une promesse? Comment est-ce qu'on sait qu'on a une promesse? Amen. Et alors, je profite pour répondre parce qu'effectivement, on dit on attend la manifestation d'une promesse. Vous savez, la promesse, ce n'est pas forcément une vision, visitation divine dans ta chambre, là, pendant que tu es en train de dormir, Dieu apparaît en grande lumière. Ma fille, je suis l'Éternel, ton Dieu. Voilà la promesse. Je te dis, tu as été choisi pour construire beaucoup d'orphelinats en Côte d'Ivoire. Non. Il y a une personne, peut-être sur 10 000, qui a une visitation, peut-être même sur 100 000, qui a une visitation visible et manifeste de Dieu. La plupart du temps, Dieu parle par le moyen qu'il a déposé en nous, c'est-à-dire notre esprit. Ça va se manifester par des gens de conviction. Ça peut se manifester par des types de fardeaux. Tu n'arrives pas, quand tu fermes les yeux, il y a quelque chose que tu peux ressentir. Certaines personnes, c'est ainsi, ils sentent qu'il y a des choses qu'ils doivent réaliser. Amen. Cette sensation de fardeau, moi dans ma vie ça s'est manifesté ainsi. Dieu n'est pas venu me visiter pour dire forcément évangélise tout le monde. Non. Quand je vois les gens qui ne connaissent pas Jésus, quand je vois des personnes qui sont en train d'être à la perdition, à l'enfer, mon âme pleure. J'ai l'âme qui souffre et je me dis je dois faire quelque chose. Quelle est ma promesse dans ce cas? Ma promesse c'est tout simplement la réalisation de ce rêve, c'est-à-dire de voir des milliers, sinon des millions de vies sauvées. Je souffre dans mon âme de voir la misère, la pauvreté des gens qui la souffrance me fait mal. La souffrance d'autrui me fait souffrir. Et quand je vois ça, j'ai le cœur qui brûle. Je ne peux pas être indifférent. Je ne peux pas être indifférent. Donc, je comprends, j'ai compris que ma vie, c'est d'amener les gens à Dieu et de les amener avec Dieu. Avoir une vie selon les promesses et la parole de Dieu. Alléluia. Voilà ce qui brûle en moi. Et pour moi, ça constitue la promesse. Dieu n'est pas venu me visiter spécialement pour dire, allez faire le tour 931. On a fini de faire les premières campagnes d'évangélisation. J'ai prié. Et puis j'ai eu vraiment la conviction, j'ai senti que, et si on évangélisait? Et j'ai pris ça parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Je dis, ça là, c'est Dieu qui m'a dit. Je dis, je sens parce que Dieu ne veut pas vous parler par des convictions. Ça peut venir comme ça. Quelquefois aussi, tu peux ne même pas sentir un fardeau spécial. Mais ne te culpabilise pas. Ne pense pas que Dieu va te parler comme il parle à Pastor Sanogo. Tu as ton propre mode de fonctionnement. Donc, n'aie pas de complexe. Dis à un voisin, sois décomplexé. Dieu est avec toi aussi. Alléluia. Alléluia. Donc, quelquefois, tu ne sais pas vraiment, mais au fur et à mesure, dans l'évolution de ta vie, les choses vont se clarifier. Amen. Donc, on a des promesses. Tu as la promesse déjà. Quand tu veux voir certaines choses se réaliser, tu sens des écoles, une entreprise, certaines choses, et c'est une parole qui ne te lâche pas. C'est une vision qui ne te lâche pas. Tu peux déjà considérer si ce que tu vois est conforme à la parole de Dieu, tu la prends comme étant une promesse. Alléluia. Ce qui va se passer, c'est que c'est ta foi qui va amener ces choses-là à l'existence. Si vous vous approchez des hommes de Dieu, j'ai lu souvent l'histoire des gens qui ont fait des exploits. Ils vont te dire, ce n'est pas à partir de grandes choses qu'ils se sont battus. Certains ont eu de grandes visions comme Moïse, d'autres n'ont pas eu ça. Mais ils avaient des convictions, ils avaient des convictions que certaines injustices devaient s'arrêter. Et ils se sont battus pour qu'il y ait justice dans tel ou tel domaine. Ils ont pris ça à cœur. Et ils avaient en cœur une chose, c'est que la justice sera établie. C'était ça leur promesse. Et ils ont eu la foi jusqu'à voir la justice établie. Certains se sont battus pour les indépendances. Quand l'indépendance a été acquise, ça a été l'accomplissement de leur promesse. Amen. D'autres se sont battus pour que cesse l'esclavage. Ceux qui ont lutté pour que l'esclavage cesse, c'est pas qu'ils ont tous reçu des visions. Dieu est venu pour dire c'est toi, j'ai choisi. Ou bien Dieu est parti voir Nelson Mandela, c'est toi qui vas arrêter l'apartheid. Si tu lis ses livres, il dit pas jamais ça. C'est tout qu'il voit les gens qui souffrent, il n'aime pas. Il n'a pas aimé. Il dit il faut que ça change. Amen. Et il s'est battu pour cela. Quelquefois même sans prière. Mais il s'est battu. Il s'est battu pour une chose, parce que ce n'est pas par hasard que ton être réagit contre une injustice. C'est Dieu qui t'a donné cette physionomie. Alléluia. C'est en ce sens que c'est une promesse de Dieu, parce que la Bible dit ceci, Dieu crée en nous le vouloir et le faire.
Amen, amen, amen.
Donc il peut parler en toi. Donc n'attends pas. Tu dis je suis assis. On dit tu attends quoi? J'attends la promesse. J'attends la promesse. J'attends la promesse. Voilà. Mais chaque fois que tu vois les ordures dans la ville, ça te gêne. Oh, il y a trop de saleté dans les rues. Il y a trop de saleté. Mais tu sais que tu peux être celui qui va faire que la Côte d'Ivoire sera totalement propre.
Amen.
Ça peut être une promesse. Et à partir d'un simple fardeau comme ça. Mais ce sont les petits fardeaux qui changent le monde. Il ne faut pas seulement regarder les choses de se plaindre. La promesse, c'est que je vais apporter une solution. Et c'est se dresser pour cela. Amen, amen, amen. Maintenant, il y a des promesses qui sont des visions précises où Dieu te parle quand tu lis la Bible. Dieu te dit certaines choses, il t'en parle. Ça aussi, ça fait partie des promesses. Amen. Maintenant, ces choses-là, que ce soit la promesse d'avoir un enfant, la promesse d'avoir une entreprise, la promesse de ceci ou de cela, Dieu, à l'épreuve 4, va tarder avant... Les choses vont tarder avant de se mettre en place. Et le fait que ça tarde, ça peut te mettre dans une situation inconfortable. Amen. Mais on l'a étudié précédemment. Il faut appliquer pendant cette période certains principes et tu vas voir que cette situation va se transformer en la gloire de Dieu. Donne un bon amen à Jésus.
Amen.
Donne un bon amen à Jésus.
Amen.
Amen. Alors, on va développer, on a déjà développé deux clés, mais on doit en tout développer quatre clés. Comment transformer les périodes de patience, les périodes de longue attente en trésor. On a partagé déjà deux clés. Amen. Aujourd'hui, on va toucher la troisième. Je rappelle juste, la première des clés, c'est d'accepter d'être patient. D'accepter l'importance de la patience. Amen. Amen. Et j'ai fait une parenthèse là-dessus, au premier culte que je vais rappeler. J'en discutais dernièrement avec mon épouse. On a parlé de savoir attendre le temps des choses. Je vous ai lu un texte dans le livre d'Ecclésias, chapitre 7, qui dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Dis avec moi « en son temps ».
En son temps.
Ça veut dire que la promesse ne tarde pas pour qu'elle tarde. Dieu, dans toute parole qu'il donne, met un temps, met une saison. Dans un enfant, il y a une saison. La patience, c'est l'art d'attendre le temps des choses. Un enfant qui vient dans le ventre va prendre 9 mois pour naître. Être patient, c'est attendre les 9 mois. Sauf que nous ne savons pas le temps de toutes les promesses. C'est-à-dire quand Dieu te dit, si Dieu te dit tu seras chef de l'État, ce qu'il dit et ce qui va se faire, il y a un temps. Il y a un temps qui vient dans sa parole. Dieu met un programme là-dedans. Si tu cherches à te battre et à devenir chef d'État avant le temps, on peut te tuer. Oui, tu peux mourir. On dit, t'as dit le coup d'État en prison. Mais on t'a dit une chose, mais il y a un temps. Il y a un temps où, quand le temps d'une chose arrive, l'atmosphère même change. Quand la saison des mangues arrive, quelque chose te dit que la saison est arrivée. Chaque saison se signale. Amen. Si tu n'attends pas le temps de la chose, tu dis Dieu m'a promis et tu cours avant le temps, ça va te créer des problèmes. Si Dieu te dit je bâtirai par toi une grande entreprise qui va envahir le monde, il y a un temps à sa parole. Et ça, il faut savoir attendre le temps. C'est ça la patience. Quand le temps arrive, ça se sent. Tout ce qui existe sur cette terre possède un temps. Et j'en parlais avec mon épouse et je fais cette parenthèse ici. Même dans l'éducation de vos enfants, il y a un temps. Dieu a mis un temps dans chaque enfant, dans chaque homme. Et Dieu, la Bible dit, le texte d'Ecclésias dit, Dieu fait toutes choses belles. Dieu fait toutes choses bonnes, pas dans le temps de Dieu, mais au temps de la chose. Amen. Amen. L'enfant, quand vous observez l'enfant a un temps. Il a un temps. Il y a un temps où votre enfant est collé à vous. C'est un temps. Il y a un temps où il se détache. Et vous savez, le temps, quand vous ne respectez pas le temps, dimanche dernier, j'ai dit, on crée des Ismaël. C'est-à-dire, on fabrique. C'est pas force. Quand on dit Ismaël, il ne faut pas avoir quelqu'un ou une entreprise. Non, c'est pas toujours ça. On fabrique quelque chose qui va combattre votre promesse. Par exemple, un enfant a un temps. L'enfant, il se trouve qu'il est brillant en mathématiques. Il est très fort en classe. Alors tu te trompes, tu penses qu'il est déjà adulte. et tu le propulses, tandis qu'il est, il sera adulte autant que Dieu a prévu pour être adulte. Si tu considères un enfant de 10 ans, tu le prends comme un adulte, tu lui fais faire les choses de l'adulte, tu vas le détruire. Parce que ce n'est pas son temps. Même s'il est intelligent, l'homme a plusieurs particularités en lui. Il y a la progression intellectuelle, mais il y a aussi la progression émotionnelle. Les gens ont pris des enfants de 12 ans, ou l'enfant a 10 ans, où il doit jouer encore au Lego. Parce qu'il est brillant. Les parents sont fiers de dire, mon enfant, à 12 ans, il a eu le bac. Tu as fait du mal à ce gamin. Parce qu'il y a un temps où on construit les émotions. Et parce que ces émotions n'ont pas pris le temps pour être bâties, ce monsieur-là, quand il sera grand, il sera un problème dans son foyer. Par exemple, si vous avez privé l'enfant de la période où il attend l'affection des parents, il y a une zone de l'enfant où l'enfant est collé à vous. Maman veut aller au marché, je peux aller avec toi. Dans cette période-là, c'est le temps où l'enfant se colle à toi pour que tu lui donnes l'attention. Il y a un autre âge où il ne va plus te poursuivre pour aller au marché. Il va vouloir rester avec ses copains. Et c'est à cet âge-là, les gens disent, hé hey, petit, tu ne m'accompagnes même plus. Ah maman, et quand tu le prends pour aller faire les courses, maman, les femmes m'aiment, je veux partir. Tu dis, non mais reste un peu avec maman. Non, il y a eu l'âge de rester avec toi. Et pendant cet âge, et l'enfant lorsqu'il naît, son premier réflexe c'est de s'attacher à ses parents, pas à autrui. En fait, Dieu a créé cette saison pour que tu lui donnes, c'est là que tu bâtis les valeurs. Tu sais, fiston, dans la vie, sois un homme juste. Papa est droit. La droiture, c'est important. Voilà. Et vous marchez. Papa, je peux t'accompagner au travail? Allons-y, fiston. Et vous parlez. Et tu transmets les valeurs divines. Parce que c'est le temps que Dieu te donne pour ça. Maintenant, toi, tu sautes la période. Tu es toujours parti. L'enfant atteint 15 ans. Tu es maintenant, fils, viens. J'ai appris hier que tu as touché la cigarette. Tu as raté ta saison, ses camarades ont pris le relais. Au temps de la saison, ils voulaient aller chez les camarades. Amen. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on suit? Donc c'est pareil, quand vous propulsez des gens dans l'âge qu'ils n'ont pas, vous les détruisez. Quand vous amenez les personnes dans la dimension, dans l'âge qu'ils n'ont pas atteint, vous créez des Ismaël en eux-mêmes. Ça veut dire des choses qui vont les combattre. Donc même si ton enfant est brillant, que tu, physiquement tu l'as fait évoluer de classe, il faut savoir qu'il a le droit. C'est-à-dire qu'il y a un temps où les enfants ont envie de jouer, sauter, faire n'importe quoi. Là. C'est prévu dans leur ADN. Laisse-le faire n'importe quoi. Laisse-le sauter. Il casse et puis corrige-le un peu. C'est le moment où on expérimente. Laisse-le. Mais l'enfant, non. Sois une femme. La petite, elle a 4 ans. 4 ans. Donc tu arrives, tu vois l'enfant, et puis tout le monde est content. Quand vous arrivez à l'enfant, l'enfant ne joue pas. L'enfant déjà se comporte comme une adulte. Et puis tout le monde est fier. Ouh, elle est mature. Elle n'est pas mature. Elle n'est pas mature. Un enfant est un enfant, il est toujours un enfant. Il y a un domaine de sa vie où elle a eu de l'avance. Mais il y a un autre domaine, parce que l'enfant en a plusieurs. Il y a le physique, il y a l'affectif. De la même manière que les enfants du même âge n'ont pas les mêmes tailles. De la même manière, émotionnellement, spirituellement, fonctionnellement, les enfants n'ont pas la même croissance. Amen. Un enfant de 12 ans peut être beaucoup plus grand que son camarade qui a 12 ans. Mais il n'y a pas d'anomalie. C'est normal, la vie est comme ça. De même, affectivement, un enfant de 12 ans peut ressembler à un enfant de 18 ans dans le raisonnement, mais dans une autre partie, dans le raisonnement, pardon, un enfant de 12 ans peut ressembler à 18 ans. Mais dans l'émotion, il a 12 ans. Si parce qu'il parle comme 18 ans, tu le mets à les gens de 18 ans, tu vas le mélanger. Il faut laisser les choses en leur temps. Il faut être patient. Dis à un voisin, sois patient. Sinon, tu engendres de la destruction dans ta maison. Alléluia. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, je parlais comme un adulte. Ça veut dire, quand on est enfant, là, Laisse l'enfant parler comme un enfant. Ce n'est pas toujours excellent d'avoir un enfant qui a trop, qui marche avec les grands, et puis l'enfant, c'est très, ça peut être dangereux. Ou bien que toi-même, tu l'y contraignes. Amen. Donc, n'engendrez pas d'Ismaël dans votre maison parce que vous n'acceptez pas la loi du temps qui est dans les choses. Chaque chose a son temps. Une promesse a son temps. Un enfant a son temps. Toi, tu as ton temps. Tu as ton temps. Toi, un temps. Une parole a un temps. Toute chose a un temps. C'est la première clé de la longue attente. La longue attente, Dieu veut que tu comprennes et que tu acceptes cette loi. Que tu cries, que tu pleures, retiens que toute chose a un temps. Ta vision a un temps, ton ministère a un temps, toute chose a un temps. Deux choses peuvent sembler similaires, mais les deux choses peuvent porter des temps différents. La même entreprise n'a pas forcément le temps par rapport aux personnes. Pourquoi? Parce que pendant le temps de la longue attente, alléluia, alléluia, Dieu cumule du potentiel. En fait, l'attente... Ça, je vous l'ai dit aussi dimanche dernier, mais l'attente, le fait que Dieu te fasse attendre pour réaliser une promesse, ça permet à ta promesse de maturer, de devenir mature, de devenir forte et de pouvoir exister lorsqu'elle va sortir. Je vous l'ai dit la dernière fois, plus ton programme, ce que Dieu veut faire avec toi est important, plus il peut s'écouler un temps de formation. Amen. Entre le moment où l'enfant, la femme reçoit la semence, et l'enfant est fécondé, entre ce moment-là et la naissance, il s'écoule un temps. Pendant le temps, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant se forme. Pendant ce temps, qu'est-ce que ta vision fait? Ta vision se forme. Ton projet se forme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Donc, c'était vraiment la première clé. Il faut accepter le temps de Dieu. La deuxième clé pour vaincre, pour transformer votre désert 4 en oasis, c'est de triompher d'Amalek. Amen. Amen. Et rapidement aujourd'hui, je vais faire avec le troisième point. Triompher d'Amalek. Pour triompher d'Amalek, il y a trois choses à faire. Pour triompher d'Amalek, il y a trois choses à faire. Aujourd'hui, je vais parler de la troisième chose à faire. Amen. Donne un bon amen à Jésus.
Amen.
Voilà. Donc, la période de la longue attente d'Israël dans le texte biblique s'est produite entre Exode 17 et Exode 32. Amen. Et durant cette période, Israël a vécu plusieurs choses, dont celle dont nous avons longuement parlé depuis le début, l'attaque d'Amalek. C'était une attaque guerrière sur le plan physique, mais nous l'avons dit, de par le sens étymologique, le sens même du nom Amalek, on peut comprendre ce que ça signifie. Spirituellement parlant, celui qui attend est soumis à une pression. Amalek signifie quoi? Ça, c'est bon de le dire pour les nouveaux. Ça signifie quoi? Ça signifie être dans la vallée. Donc, quand tu traverses Amalek, quand Amalek t'attaque, pardon, il veut te mettre dans la vallée, c'est-à-dire dans la dépression, dans l'angoisse, dans la tristesse, parce que tu trouves que ta promesse tarde à se mettre en place. Et là, c'est important. Amen. Le but d'Amalek, c'est de détruire ton moral et ton esprit. Parce que la Bible dit ceci, l'esprit d'un homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit qui a battu, qui le relèvera? Amalek vient pour casser ton moral, vient pour casser ton esprit. Parce que lorsque ton esprit est découragé, tu es abattu, tu es vulnérable au diable. Ton esprit doit être toujours fort. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus.
Amen.
Amen. Et lorsqu'il t'attaque, là ce qu'on a dit, hein, lorsque tu sens que tu es abattu, respecte toujours cette règle, ça fonctionne. Invoque Dieu. Prie, adore. Quand Moïse a vu Amalek, il a levé les mains. C'est ce que ça signifie. Prie. Dis, Seigneur, fortifie-moi. Parle ou bien adore. Il faut que ton esprit demeure toujours vif, éveillé. Si avant qu'Amalek t'attaque, tu es quelqu'un qui a l'habitude d'être souriant, d'être fort, tu dois garder ça. Tu ne dois pas rester là au point où tellement Amalek t'a frappé. C'est-à-dire quand tu marches dans la rue, on sait que quelque chose t'a visité. On dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Ah, la vie. Eh hey, Dieu, quel jour. Quand tu as battu comme ça, Satan peut te faire sérieusement du mal. C'est ton esprit qui te soutient. Amen. Quand Amalek t'attaque, tu dois relever. Le but, c'est de relever ton esprit. Proverbe chapitre 24, verset 10, dit ceci. Si tu te laisses abattre, Proverbe 24, verset 10, notez bien ce texte. Dans la version Semeur, c'est dit, si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Tu peux prendre des décisions, mais si ton esprit est abattu, tu n'auras pas la force d'appliquer tes décisions. Ton esprit doit être fort. Dans la version Louis II, c'est plutôt dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. C'est-à-dire, quand Amalek t'attaque, Amalek c'est le temps de la détresse, quand Amalek t'attaque, et puis toi moralement, en cette période-là, tu as faibli, quand tu vas essayer de faire des efforts pour faire quelque chose là, ça va te donner des Ismaël. C'est-à-dire, ta force même va créer la détresse. Si l'esprit d'Abraham était resté vif, il allait comprendre qu'il ne fallait pas qu'il tombe dans le piège de Sarah. Mais quand ton esprit est abattu, tu acceptes toute proposition qui vient à toi. Parce que toi-même, moralement, tu es aplati. Donc, les solutions pour vaincre Amalek ne sont pas des solutions qui vont vous donner ce pourquoi vous priez. Les solutions pour vaincre Amalek, c'est juste comment garder l'esprit vif, fort et garder ses valeurs intérieures. Amen. Triompher d'Amalek, c'est garder tes valeurs. Triompher d'Amalek, c'est ne pas céder à la tentation. Triompher d'Amalek, c'est garder ton esprit sur la montagne, c'est-à-dire ton esprit au-dessus. Et pour le faire, il faut invoquer Dieu. C'est ça, Moïse a levé la main. Deux, il faut t'asseoir sur le rocher. Moïse est assis sur le rocher pendant que ses deux amis soutenaient ses bras. Et Jésus aussi a été confronté à Amalek. Et c'est ce que je vous ai dit dimanche dernier. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que dans la prière de Jésus, on voit les différentes postures. D'abord, Jésus demande l'aide de Dieu. Mais quand il demande l'aide de Dieu, il exprime aussi ce que lui-même il peut faire. Il dit, Dieu, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Donc il avait son plan B. Mais il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le fait que Jésus dise, non pas ma volonté, mais ta volonté, correspond spirituellement à s'asseoir sur le rocher. Il abandonne ses projets entre les mains du Seigneur. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Quand Amalek va venir vous Amalek te poursuit. Tu vas voir ta main vouloir tendre vers des sollicitations, mais qui dans ta conscience et par rapport à tes valeurs ne sont pas très correctes. Mais selon toi, il n'y a pas d'autre issue. Ça y est, tu cherches l'argent jusqu'à... Et le seul gars qui te propose l'argent va te faire du mal. Ça y est, il te dit, il faut qu'on... Tu deux ou trois personnes, il faut qu'on fasse du mal à des gens. Ou tu attends le mariage jusqu'à le seul gars qui veut te marier, lui, il doit briser d'abord son précédent foyer. Et puis te prendre. Donc, toi-même dans tes valeurs, là, est-ce que tu trouves correct qu'on divorce une femme pour venir t'épouser, toi? Est-ce que toi, tu vas vouloir qu'on te fasse ça? Est-ce que avant là, si ce n'était pas le deuxième des longues attentes, est-ce que tu allais être là pour attendre un divorce pour te marier? Toi, tu as voulu avoir ton mari à toi. Mais comme ton mari à toi tarde à venir, le seul gars qui pointe, pour toi ma chérie, je vais divorcer. Tu dis, mais pourquoi? Tu dis, d'elle-même, le gars dit, d'elle-même, je suis plus heureux dans mon foyer. Ce n'est pas toi, ce n'est pas lié à toi. C'est à cause de toi, il veut partir. Et quand tu rentres dans cette affaire, d'ailleurs même il ne divorce même plus. Il dit, je te promets, il y a trop de dossiers carabinés. Voilà ton Ismaël. Tu es avec un gars, il ne veut pas se séparer, et tu es embrouillé. Et quand tu laisses Ismaël, tu mets en retard, c'est ce qu'on a dit, Terak, ton vrai mariage. Parce que pendant la période, comme tu es occupé, dans l'attente d'une libération pour que toi tu... pour que tu puisses t'attacher. Le vrai gars passe par là. La vraie faveur passe par là. Mais pourquoi? Parce que tu as cédé à la pression d'Amalek. Tu as cédé, tu n'as plus de force. Donc, quand Jésus était agressé par le diable, par la tristesse, par tout ça, il dit, Seigneur, oh, La croix, là, on peut l'éviter d'une certaine façon. Mais comme Moïse n'a plus compté sur ses propres forces, sur ses jambes, il s'est assis sur le rocher. C'est-à-dire, laisse tes propres solutions. Fais cette prière quand tu es confronté à Amalek et que tu es prêt à céder à une chose qui te paraît un peu anormale. C'est-à-dire, on peut trouver un verset, c'est vrai, pour t'aider dans ce que tu veux faire. Mais quelque part dans ton esprit, quelque chose te dit que ce n'est pas bon. Donc, à cause de ça, mais tu n'as pas la force de tenir. Parce que le monsieur aussi, tu commences à l'aimer. Non, là, je parle à quelqu'un de la part du Seigneur. Franchement, tu penses à lui. Quand tu dors, tu penses à lui. Tu es devenu amoureuse. Il ne faut pas penser que tous les sentiments amoureux viennent de Dieu. Être amoureux ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Donc, mais en ce moment-là, tu n'as plus de force. La Bible dit, quand tu es dans la détresse, tes forces même ne sont que détresse. C'est-à-dire que ce que tu vas essayer de faire va te faire un mauvais choix. Fais la prière de Jésus. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que tu as invoqué le Seigneur de la sorte, Dieu va te sauver. Au dernier moment, le gars va te dire, je te demande pardon. Ça va te faire mal. Il va dire, non, je vais rester à ma femme. Ça va te brûler pendant 3 ans, 2 ans. Pendant une année, bon, on va réduire. Hein? Non, tu as trop souffert. Je réduis un peu. Ça va durer. Voilà, il y a ce qui dit. Ah, vous voulez mettre 3 mois? Bon, ok. Bon, d'accord. Ça va juste 3 mois et puis après, le vrai gars arrive. Mais. Amen. Dieu va te sauver. Quand vous êtes coincé avec Amalek, dis Seigneur. Où je suis là, je suis mort, je m'abandonne en tes mains. Je renonce à ma solution. Là, je sais que, Seigneur, si tu me laisses, ma force est que détresse. C'est-à-dire, ce que je vais faire, ça peut ne pas te plaire. Donc, toi-même, paralyse-moi. Toi-même, prends le contrôle. C'est ça, s'asseoir sur le rocher. Donc, si tu avais lancé l'affaire, c'est comme Dieu va envoyer une réponse pour te faire sortir de là. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça le soutien par les deux bras. Lorsque Moïse était affaissé, quand il s'est appuyé sur le rocher, ses deux amis ont tenu ses bras. La troisième chose qui arrive quand vous combattez Amalek, c'est ce que j'appelle le soutien de Dieu. Dieu envoie un ange. Mais l'ange, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un être que vous allez voir dans votre... C'est une forme d'encouragement. C'est quelque chose qui vient pour te sortir au dernier moment avant que tu ne glisses. Parce que tu as dit... Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté. C'est vrai que mon corps a envie de faire ça. Mon âme a envie de faire ça. Mais, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et quand la volonté va venir, ça pourra te faire mal. Mais tu t'es abandonné entre ses mains. Seigneur, c'est la seule opportunité de travail qu'on me donne. Ça fait des mois que j'attends. Mais ce travail-là, je sais que ça détruit la jeunesse. Je sais que ça détruit des vies. Oh Dieu! Mais je dois manger. C'est le seul travail qu'on m'offre. Je dois aller vendre les cigarettes, la drogue. Jésus, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et Dieu va te sauver de là. Et sauver de là, il faut que tu acceptes cela. C'est la troisième chose. Amen. La troisième chose pour faire Amalek, c'est d'accepter le soutien de Dieu. Lorsque Jésus-Christ était dans la détresse, il a voulu compter sur ses 3 acolytes, mais eux-mêmes, ils sont tombés, n'ont pas pu tenir. Au verset 45 de Luc 22, il est dit que les 3 disciples, Jésus a pris ses meilleurs disciples pour monter à Gethsémani, pour affronter son Amalek. Il a pris 3 disciples, les plus coriaces, les plus dangereux, les plus loin, Pierre, Jean, Jacques, les 3 mousquetaires de Jésus. Bon, dans le film, on dit, il y a combien de mousquetaires là? Les 4, non? Mais Jésus, il y avait 3. Donc, les gars, il a dit que non, les géants. C'est-à-dire, on savait que la bataille était tellement rude, on a laissé 9 autres. On dit, les 3, venez. Donc, eux-mêmes, ils sont montés. Et le maître nous appelle dans ses appartements privés. Là, on est dans l'intimité. Il y a eu 3 rounds. Premier round, Amalek nous a mis KO. Bon, Jésus est venu les réveiller. Il dit, priez avec moi. Il dit, Père, maître. Je viens, donne-moi 20 minutes, je dors un peu seulement. Et quand je me lève, on va prier. En fait, les 3 étaient venus pour soutenir Jésus. Jésus a dit, priez avec moi. Parce que dans la période quand Amalek vous attend, vous avez besoin d'un soutien. Moïse a eu la faveur d'avoir des soutiens. Mais en fait, le combat de Jésus était beaucoup plus intense parce que Jésus se battait pour le salut de toute l'humanité. Donc, pour Moïse, là, ses acolytes ont pu se tenir debout. Mais pour Jésus, les trois. Et la Bible dit, ils ne se sont pas endormis de fatigue. Verset 45 de Luc 22, il dit, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Vous voyez le texte? Luc 22, 45 dit, après avoir prié, il leva, se vint vers les disciples qu'il trouva endormis de quoi? C'est Amalek. Et ils étaient tristes jusqu'à ils ont dormi. Et l'atmosphère était bizarre. Quand Amalek t'attaque, l'atmosphère est bizarre. Tu dis, mais où on va même dans la vie? Et on n'a même pas la force, vraiment. Ce n'est même pas la peine. Ils étaient tellement tristes, ils sont endormis. Endormis de tristesse. Ce n'est pas endormi par fatigue. C'est la fatigue intérieure. Ils étaient tristes. Et verset 43, la Bible dit, il y a un ange du Seigneur qui est apparu du ciel pour fortifier Jésus. Écoutez, même si pendant votre temps de détresse, il n'y a pas votre pasteur pour vous aider, aucune amie vient vous soutenir, Dieu va envoyer un ange. Mais tu dois passer par là. Pourquoi Dieu veut que tu rencontres Amalek? Parce que, tu sais, tu es tellement important, ta vision est tellement importante que tu dois être quelqu'un qui est fort en esprit. Amalek vient pour, te rendre fort d'esprit. Ce qui est important dans la vie, c'est ton esprit, c'est ton moral, c'est ta vision. C'est la façon dont tu es capable de tenir une promesse, une vertu jusqu'au bout. C'est ce qui fait un homme. Le corps va rester. Tout ce qu'on vit sur la terre va rester, va partir, reste sur la terre. Mais plus tard, ce sont tes valeurs, ce que tu as gardé qui t'accompagneront auprès de Dieu. Il ne faut pas céder en cours de route. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder quand tu connais la volonté de Dieu. Il ne faut pas céder quand tu connais le plan de Dieu. Ça va chauffer, mais reste ferme. Il faut ça pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Et quand même personne ne te parlera ce jour-là, quand personne ne te visitera, parce que tout le monde est endormi de tristesse ou te relâche en ce moment, Dieu va envoyer un ange. Et la Bible dit, il y a un ange qui est venu pour fortifier Jésus. Il y a un ange aussi qui a fortifié Jésus quand il était dans le désert, dans le jeûne de la prière. Dieu fortifie. Et je veux vous dire, il faut accepter. La troisième chose, c'est accepter le réconfort de Dieu. Il peut venir de différentes façons. Pendant que ton âme est abattue, peut-être aujourd'hui tu es arrivé attristé. Et tu viens, tu entends la parole. Mais c'est un ange qui te parle. C'est passé sans logo, mais Dieu. Et puis la parole te dit, lève-toi. Quand tu entends ça, tu reprends de la force intérieure. Parce que Dieu veut éveiller ton moral. Pendant que tu es souvent abattu et que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, tu tombes par là, tu tombes sur un témoignage, quelqu'un te passe un coup de fil par là et il te raconte une histoire. Ces histoires qu'on te raconte, ou bien ces choses que tu crois être un hasard, qui viennent te rappeler quelqu'un qui a vécu une situation pas loin de la tienne et puis qui s'est relevé, sont les visitations des anges. Il faut l'accepter. Parce que j'ai vu qu'il y a un moment donné, on refuse. Quand ta détresse a été trop longue, et quand tu viens au cul, tu dis, oh, on connaît. Le message fait du bien aux gens, tu dis, ah, ça là, il y a 4 ans, on m'a dit, Dieu est vivant, Dieu est vivant, Dieu est vivant. Je suis encore dedans. Je suis encore dedans. Donc, quand tu démissionnes dans ton esprit et tu n'acceptes plus le réconfort, Amalek va te vaincre. L'enjeu, c'est de garder ton esprit éveillé et tu vas comprendre ça avec la quatrième clé. Pourquoi ton esprit doit être éveillé? Parce que la suite est très importante pour triompher du quatrième désert. Donc, prends toute parole de grâce, de fortification qui te vient pendant les périodes de longue attente. C'est Dieu qui te visite. L'ange n'est pas parti terrasser tous ceux qui voulaient tuer Jésus. Il est juste venu. L'ange n'est pas battu pour Jésus. La Bible dit, un ange est venu, prends courage, Dieu est avec toi. Jésus s'est levé, son moral était fort et il a abordé sa croix, il a passé là et aujourd'hui gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes là, le fruit de la résistance de Jésus, le fruit de la volonté de Jésus, c'est nous. Nous sommes dimanche aujourd'hui, il y a des centaines, des milliards de personnes dans le monde entier qui lèvent les mains et qui célèbrent ce Jésus qui a vaincu la mort, parce qu'il n'a pas cédé. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux te dire que ton destin est important. Je veux te dire que tu portes une promesse importante. Plus la souffrance est perdue, plus il faut savoir que ça traduit l'importance de ta valeur. Amen. Et ceci nous amène, on va tourner vers la fin, à à la grande troisième clé maintenant. Donc, première clé, accepter la patience. Deuxième clé, vaincre Amalek. Troisième clé, amen, mettre de l'ordre dans votre vie et dans vos activités. La période de la longue attente a un objectif. On fait attendre longuement, Dieu te fait attendre, parce qu'il faut que tu prépares l'arrivée de ta promesse. Quelqu'un dit amen à Jésus.
Amen.
La promesse, je ne sais pas ce qu'elle est exactement. Est-ce un mariage, un enfant, un voyage, une nouvelle école, une entreprise, peu importe. Mais pendant la période de la longue attente, ou bien Dieu dispose de la période de la longue attente pour que tu te prépares à recevoir ce qui va venir. Parce que si tu n'es pas prêt, ce qui va venir va te détruire. Ou tu ne vas ramasser que très peu de fruits de ce que tu attends. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, je vous donne un exemple. Je vous ai dit que la patience, c'est attendre le temps de la chose, n'est-ce pas? Supposez que, par exemple, une chose qu'on attend, qu'on connaît tous, dont on connaît au moins la saison, c'est la grossesse. Elle dure 9 mois. Maintenant, pourquoi Dieu a mis 9 mois? Pourquoi? Supposons le contraire, c'est-à-dire, dès que tu tombes enceinte, dès que tu accouches. Ah bon. C'est-à-dire, on dit, Dieu, le monde, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Depuis là, on attend. Mais quand Dieu te fait, qu'est-ce que tu dois faire? La période de la longue attente n'est pas une période d'oisiveté. La période de la longue attente n'est pas une période où on ne fait rien, on est simplement assis à attendre qu'il arrive. Non, il y a des choses à faire. Dieu met la période de la longue attente pour que tu organises l'arrivée de la promesse. Pourquoi Dieu a fait que la grossesse dure 9 mois? Parce qu'il faut se préparer. Parce que si l'enfant venait, dès que tu dis chérie, je suis enceinte. Ah bon? Demain, voilà bébé, il est arrivé. Le temps de faire le trousseau, ça dit que mais ça allait être un cafouillage mondial. Hey, tu vois la soeur hier, ça va, demain matin elle vient, elle a un bébé. Donc pourquoi voulez-vous que Dieu change? Quand Dieu laisse le temps aux choses, c'est pour nous préparer. Quand tu fais une plantation, lorsque tu as une plantation, supposons que dès que tu as semé ton cacao en même temps, non, il y a un temps pour que tu analyses, pour que tu prépares. Le nombre d'employés que tu utilises pour nettoyer ta plantation est différent, par exemple, du nombre d'employés que tu vas utiliser pour récolter la moisson. Le temps d'attente des promesses est un temps d'organisation. Quand on prépare le trousseau, on prépare l'arrivée de l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'ordre. C'est quoi? On est là. Ah, l'enfant va venir. Où il va dormir? Voilà. Comment on va placer les choses? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Ça, c'est vrai pour le monde naturel, mais c'est vrai pour le monde spirituel aussi. Amen. Amen, amen, amen. Sauf que dans le monde spirituel, on n'est pas toujours informé du temps de la promesse. Amen. Mais n'empêche que le même principe demeure. Il faut se préparer. Il faut s'organiser pour recevoir la promesse. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus.
Amen.
Donne un bon amen.
Amen.
Dis à un voisin, organise-toi. Il faut t'organiser. D'où je tire cela? Juste après Exode 17, quand Amalek a fini d'attaquer Israël et que Moïse a triomphé d'Amalek, au chapitre 18 de Exode, Dieu envoie, ou bien, on va dire que ce n'est pas Dieu, mais c'est Dieu en fait. Jéthro, le beau-père de Moïse, vient le visiter. On va lui le passer tout à l'heure. Et il lui donne des conseils pour qu'il s'organise. Il a vu du désordre dans l'attitude de Moïse. C'est-à-dire, Moïse n'était pas prêt pour la gloire. Quand vous n'êtes pas prêt pour la gloire, quand vous n'êtes pas prêt pour la visitation de Dieu, vous, spirituellement parlant, vous retardez l'arrivée. Ou, quand la chose arrive, supposons que tu as très peu de récipients et très peu de travailleurs pour récolter la moisson de ton café, de ton cacao, tu vas en perdre beaucoup. Alléluia. Tu vas en perdre beaucoup. Si tu n'es pas préparé pour l'arrivée de ton enfant, ça va être très compliqué. Son arrivée ne va pas produire le bonheur escompté. Donc même si quand tu n'es pas prêt que la gloire te visite et que tes prières sont exaucées, elle ne va pas produire le bonheur que tu attendais parce que tu n'es pas prêt. Un enfant qui arrive sans qu'on l'a préparé, ça cause plus de tristesse que de joie. Vous êtes d'accord avec moi? Hey, tu as eu les 9 mois, mais dans les 9 mois là, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas acheté même un habit qu'il va porter lorsqu'il va sortir. Tu n'étais pas prêt, tu n'étais pas organisé. Et puis l'enfant est arrivé. Tu vois, c'est comme si son arrivée à te créer plus de problèmes que de bonheur. Or, l'avènement d'un enfant est un bonheur. Donc, toute promesse qui n'est pas précédée d'une organisation ne produit pas le bonheur escompté. Et à la fin, on a l'impression que Dieu ne nous a pas bénis. À la fin, on a l'impression que Dieu n'a pas accompli sa promesse. Tu dois te préparer. Dis à un voisin, tu dois te préparer. Il y a des gens que Dieu a déjà exaucés. Oui. Mais en fait, ils n'étaient pas prêts. Donc, ils n'ont pas vu la bénédiction. Ils n'ont pas vu la réponse. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Il y a un temps où Dieu te visite. Mais tu dois te préparer. Alléluia. Et quand vous voyez toutes les promesses qui t'attendent, c'est parce que quelque chose devait être préparé. On a l'exemple, par exemple, l'exemple de Samuel, du prophète Samuel. Samuel est une promesse de Dieu. Anne l'attendait. Mais quand Samuel va aller arriver, qu'est-ce qu'on devait en faire? Comment est-ce qu'on devait le gérer? Quel était son rôle? C'est vrai, tous les enfants sont des bénédictions. Mais je vous assure, ce qui tarde à se mettre en place a une particularité différente. Amen. On ne va pas tous attendre pour la même chose. Mais ce pourquoi Dieu va te demander d'attendre a une signature unique. Elle est particulière. Tout est spécial, mais ce pourquoi tu attends est assez particulier. Donc lorsque la chose tarde à venir, tu dois la préparer. Tu dois t'organiser dans ta tête. Alléluia. Dans ton esprit, tu dois apprendre à accueillir cela. Je vais vous inviter à lire Ésaïe, chapitre 54, à partir du verset 1. Il est dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Ça, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, toi qui n'arrives pas à enfanter, c'est-à-dire toi qui depuis là n'as pas encore vu le fruit qui devait sortir de tes entrailles. Depuis là, l'entreprise t'a à se mettre en place. Le fonds que tu attends pour réaliser un projet n'arrive toujours pas. Il te dit ceci, réjouis-toi déjà. Amen. L'expression réjouissance est en train de dire une certaine atmosphère de pensée. Hein? Donc, il n'est pas attends l'accomplissement avant de danser. Danse avant de voir. On ne voit pas pour danser. C'est-à-dire, tu danses avant le but. Et puis quand on marque encore, tu danses encore. Amen. Mais tu cries déjà même, comme si l'équipe avait déjà gagné. Oh, ils n'ont pas encore gagné. Amen. Il dit donc, réjouis-toi stérile. Parce que tu vas avoir beaucoup d'enfants. Et puis, le verset qui suit au verset 2, le Seigneur nous dit ceci. Il dit, on peut le lire ensemble, Ésaïe 54, 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta... Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te... À droite... Et ta postérité et peuplera. Amen. 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 Donc le Seigneur dit, tu vas avoir beaucoup d'enfants, mais qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, crée le terrain pour ranger ta vision qui va se mettre en place. Élargis l'espace de ta tente. Mais élargis, c'est pas, il ne s'agit pas ici d'une maison. L'espace de ta tente, et je vais le développer les dimanches qui vont suivre, c'est tout un travail à l'intérieur de toi que tu dois faire pour te préparer à l'arrivée de la gloire. Et beaucoup de promesses tardent, ou beaucoup de promesses sont venues, mais n'ont pas été perçues. Parce que tout simplement, on ne s'était pas préparé. Un peu comme un papa, une maman qui atteint un enfant qui ne s'est jamais préparé. Quand l'enfant arrive, ce n'est pas un bonheur. C'est un problème. Un enfant est une bénédiction, mais il peut être un problème si sa venue n'est pas préparée. Avoir la visite de quelqu'un, ça peut être un plaisir. Mais quand tu ne t'es pas préparé, tu n'as pas mis à manger pour lui, c'est un problème son arrivée. Tu dis, hé, mon ami, il fallait venir plus tard. Téléphone-moi d'abord.
Vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? Et il dit c'est ceci, la gloire va venir te visiter, élargis l'espoir de ta tente. Commence à voir plus grand. Commence à préparer les choses, prépare les choses dans ton esprit. Et c'est ce qui s'est passé en Exode 18. Quand Moïse a vaincu Amalek, Jéthro visite Moïse et je lis ça rapidement, Exode 18, 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu quand ils ont quelques affaires. Ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et les lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Verset 23, si tu fais cela, autrement dit, si tu t'organises comme je t'ai donné, selon les conseils que je t'ai donnés, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. C'est-à-dire, si tu t'organises, Moïse, tu pourras atteindre ta destination. Mais si tu ne t'organises pas, tu n'atteindras pas la destination. Dieu a beau te faire des promesses, mais mets de l'ordre. Je viens souvent te dire, ma soeur, mon frère, Dieu va te visiter, commence à te préparer. Amen. Amen. Tu dois t'organiser. Souviens-toi, regardez l'organisation de Anne. Anne attendait un enfant. Anne attendait un enfant. L'enfant tardait à venir. Anne, c'est la mère de qui? Le grand prophète Samuel. Samuel, c'est qui? Samuel, c'est celui qui a préparé le chemin de David. Samuel devait porter une onction très grande et très forte pour déblayer le chemin. Donc, cette promesse à Anne va tarder. Parce que pendant la période de gestation spirituelle, Dieu rend fort la vision. Amen. Amen. Et Anne priait. Et pour qu'elle prie mieux, elle a été aussi attaquée par Amalek. Qui était son Amalek? Pénina. Pénina, c'est Amalek. Pénina, dans la période de la longue attente, son mari était le consolateur, c'est-à-dire l'ange que Dieu envoie. Parce que quand Anne pleurait, son conjoint venait lui dire, chérie, je suis pour toi mieux qu'un mari, mieux que, pardon, des enfants. Je suis avec toi. Pénina vient lui rappeler, faut mari et puis enfant, c'est pas pareil, hein? Ce qui te dit là? Non. Moi j'ai enfant, regarde, voilà, enfant. J'ai mari et j'ai enfant. Toi tu as mari et puis ton mari dit que il remplace des enfants. Il remplace pas les enfants. Et Pénina était là pour rappeler la promesse. Quand votre vision est importante, il faut qu'il y ait des circonstances qui vous rappellent. Regardez, ce qu'on attend, ce que Dieu attend que vous fassiez, ou les longues attentes, il y aura des événements pour vous rappeler que ce n'est pas encore arrivé. Pour que ça vous fasse mal. Parce que, en fait, j'ai expliqué cela dans l'enseignement sur la maîtrise de soi. Ce sont des lois spirituelles. Je ne sais pas pourquoi, mais la douleur donne une force à tout projet. La douleur dégage de l'énergie. Quand tu cries, c'est-à-dire que quelqu'un qui prie en disant, Père, donne-moi une voiture. Il peut avoir la voiture. Quelqu'un qui dit, je t'en supplie. Oh Dieu, je suis piéton depuis des années. Je souffre. Le soleil me brûle. Quand il va commencer à avoir des voitures, il y aura quelque chose de différent. Amen. La douleur, la Bible dit ceci, c'est avec douleur qu'on enfante. Ce n'est pas une loi qui est vraie seulement pour les femmes. C'est une loi qui est universelle. Tout projet qui doit naître nécessite un type de douleur. Plus la douleur est vive, plus le projet est grand.
Or, les Amalek et les Pénina viennent pour que tu aies davantage mal. C'est-à-dire, tu vois, il y a des fois, ce que tu attends, tu as envie de dire, Seigneur, si tu ne veux pas me donner le mari, là, enlève ça de mon cœur. Il y a des femmes comme ça, ça dit, elles ne sont pas mariées, ça ne leur dit rien. Et puis, tu es tranquille, tu veux être comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il était unique, les femmes lui disaient rien. Donc, Dieu aussi peut enlever le désir. Mais pour toi, on n'enlève pas le désir. Parce qu'il faut que tu aies le désir, et puis qu'on tarde à accomplir le désir. C'est la douleur que tu as là qui va faire que quand ton mariage va venir, il sera unique. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, il ne s'agit pas d'enlever le mal. Il ne s'agit pas d'enlever la douleur. Les Amalek et Pénina travaillent pour l'œuvre de Dieu. Ils viennent te rappeler que... Depuis là, tu n'as pas commencé ton entreprise, quoi. Et tes camarades sont là. Et tous... ont progressé. Et puis quand il te regarde, il te salue avec un regard là. Je dis, vous êtes des promotionnels, puis t'appelles mon petit. Tout ça, c'est les camarades d'Amalek. Tu vois, ça dit, il vient, vous êtes des promotionnaires, puis tu sens qu'il te prend comme un petit, te tape d'une manière sur l'épaule là. Tu sens que quoi, ça dit que vraiment, tu es rien, tu vois, là. On est parti à l'école, mais ensemble, on était en classe, mais bon, tu n'as rien fait quoi. Ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais tout ça là, c'est pour que tu aies mal et que tu cries davantage. Parce que l'ampleur de la douleur fait que le travail qui arrive après. Amen. C'est parce qu'il se trouve un grand destin. Donc, plus une chose porte un destin important, plus sa douleur est vive. Et plus les Amalek sont forts. Parce que c'est avec douleur qu'on enfante. Quelqu'un me suit? Qui est Samuel? Samuel était des plus grands prophètes. Samuel devait préparer le chemin de David. Et qui est David? Celui qui va précéder le père, l'aïeul de Jésus. Donc, sachant le destin de la promesse, Dieu dit, ma fille, sois pas vite enceinte. Dieu a bloqué son ventre. Et elle attend. Pénina lui rappelle. Son mari est l'ange qui vient la consoler. Prends courage. Dieu est vivant, elle se fortifie. Pénina dit, on n'est pas fortifié encore. Continue. Et à un moment donné, Anne rentre dans la présence de Dieu. Elle triomphe de son Amalek, elle prie, elle crie, elle évoque Dieu et elle fait une chose dans sa prière. Elle met de l'ordre. Et c'est quoi l'ordre? Et c'est ça la troisième clé. Il faut mettre de l'ordre dans les choses. Elle dit, l'enfant que tu me donnes, quand il viendra, voilà ce qu'il va faire. Elle canalise son rêve. Quelqu'un me suit? Alléluia, c'est ça s'organiser. C'est se dire dans sa tête, tu attends des milliards. Quand tu auras les milliards, tu feras quoi? Est-ce que tu t'es préparé à ça? Les choses tardent parce que Dieu veut qu'on s'organise dans la tête, qu'on élargisse l'attente. Il faut qu'on prévoie l'arrivée du bébé. Il faut prévoir l'arrivée de ton bébé à toi, de ton entreprise. Il faut prévoir. On n'est pas là matin, tu chantes. Quand Jésus va me visiter, je vais voyager. Mais si tu n'es pas prêt, si dans ta tête tu n'as pas organisé, ah c'est vrai, hein, je voyagerai beaucoup. Si tu n'es pas préparé, tu vas tellement voyager que tu ne vas pas éduquer tes enfants, tu vas détruire ta famille. Quand ton esprit s'y est préparé, déjà dans ta tête, tu te dis, je voyage comme ceci, je voyage comme cela, à telle période, je dis déjà dans mon contrat que je suis là pour mes enfants. J'ai un frère que j'apprécie beaucoup, qui était ici, qui a compris ce message. Sa famille, ils sont au Canada, lui-même il travaille en Afrique. C'est comme si c'était un gros cadre. Il a fait un contrat, dans son contrat il dit, chaque 2 mois, j'ai 1 mois de vacances avec ma famille. Donc lui dans l'année, là, c'est-à-dire que quand il reste dans le pays, il leur donne le maximum. Mais quand il a discuté même le contrat, tu sentais qu'il était préparé à ça. C'est-à-dire, la gloire lorsqu'elle arrive, elle est vraiment immense. Et il faut faire le trousseau. C'est-à-dire, il faut la préparer. Sans quoi elle te fait mal. Elle détruit. Tu peux te retrouver dans des avions et puis perdre ton mariage, perdre tes enfants. Donc, ce qui était pourtant une bénédiction est devenu un problème. Parce que tu n'as jamais dessiné ça dans ton esprit. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi Dieu voulait que je continue mes études. Je prêchais déjà la parole, je m'étais déjà converti à Jésus. Et quand je voulais arrêter les études en classe de seconde, première, je dis, mais Seigneur, je sais lire la Bible. Quand je parle, Il y a l'onction. Je prie, les malades sont guéris. Il faut arrêter l'école parce qu'il y a trop de païens qui meurent. Il faut que j'aille les parler de chez toi. Il dit, petit, continue. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il fallait mettre en place toute une organisation pour atteindre les nations. Mes amis, nous, on n'a pas encore commencé. On est à l'entraînement. Je dis, c'est pas par fausse modestie. Je vous dis la vérité. Ça veut dire, pendant un moment, en fait, je ne comprenais pas. Mais dans mon esprit, quand je suis couché, je rêve, je vois la chose. Je vois les pays, je vois l'Afrique, je vois Centrafrique, je vois le Libéria, je vois le Ghana, je vois tous ces pays. Je vois l'Angleterre, je vois l'impact que ça va avoir. Je vois ça dans ma tête. Et parce que je vois, c'est un peu comme si, quand j'arrive et je m'assois avec le bureau, les pasteurs, on va travailler, j'ai une organisation qui se met en place. Je sens que, par exemple, les pasteurs doivent avoir l'assurance. Même la compta. Si je vous dis peut-être notre administration, comment on est administré financièrement, vous allez dire peut-être qu'on va avoir un contrôle d'État. Même si l'État ne contrôle pas en ce moment les églises, c'est la discipline budgétaire qu'on a. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent venir prendre. Il y a même un expert comptable même qui doit nous contrôler. Mais père, on n'a pas de contraintes. Mais pourquoi? C'est comme si dans mon esprit, on va aller loin. Et il faut réfléchir et organiser pour loin. Mais si tu es là, je veux voir ta gloire. Je veux aller. Tu sais, tu n'as... Vous savez, pourquoi je dis que Dieu m'a fait partir à l'école? En fait, la branche que j'ai faite, c'est la topographie. Je suis géomètre de formation. Mais ici, là, je ne fais rien de topographie, frère. Si tu me ramènes un théodolite, un appareil de mesure, je vais le casser. C'est-à-dire, je suis déconnecté. Quelquefois, j'ai l'impression que c'était une perte de temps. Mais en fait, dans cette branche, aussi simple que ça paraissait, et dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ça m'a pris l'organisation. J'ai compris la compta, l'administration, des choses comme ça. Comment tu dis tout de suite que tu attends que Dieu t'envoie des millions? S'il t'envoie, tu ne sais même pas sortir un bénéfice, faire une plus-value. Tu ne sais même pas comment te dire ça là. Tu as dit, frère, tu parles en langue. De quoi? Mais ça va t'écraser. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas organisé avant la promesse. Élargis ta tente. Viens, voisin, bouscule-toi. Mets des programmes. Forme-toi. Pendant la période de la longue attente, inscris-toi encore dans des formations. Si tu prends le temps de voir ta vision, tu vas te rendre compte que, André, je vais gérer beaucoup d'argent. Hein. Mais est-ce que mon niveau même de gestion en argent est un peu bien? Et tu te rends compte que non, que tu as un niveau CP2 dans la gestion d'argent. Mais pendant que tu attends, inscris-toi, prends un cours du soir. Si tu n'as pas l'argent pour un coup du soir, va embêter un frère comptable, dis je vais m'asseoir avec toi et puis on va apprendre. Comment tu fais le calcul? Pourquoi tu fais un tableau comme ça? Parce que tu n'as pas l'argent pour aller payer l'école. Mais au moins, Dieu t'a fait rencontrer un frère dans l'église. Tu peux lui dire, frère, pendant que je ne sais pas où je travaille, tu peux m'apprendre un peu. Parce que je sais que demain, j'aurai une entreprise. C'est ça, mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, c'est savoir classer les choses. Parce que j'attends mon bébé. J'attends la promesse. J'organise dans mon esprit. Élargis ton esprit, élargis ta tête, élargis. Vois grand. Et puis quand tu vois grand, qu'est-ce que ça va engendrer? Je sens que je vais beaucoup voyager. Si je voyage beaucoup, ça peut avoir une incidence sur mon mariage. Ok, donc quand je vais voyager, je vais donner telle règle à mes voyages. Quand Dieu m'a montré que j'allais beaucoup voyager, que les nations allaient me solliciter, j'ai établi des règles. Par exemple, quelles que soient les invitations, je n'enchaîne pas deux dimanches hors de l'église. Donc, fais-moi toutes les promesses. Mais c'est classé que, en tout cas pendant une période, si vous avez remarqué, quand je voyage là, je rate un dimanche. L'autre, je suis là. On dit, pasteur, on te veut dans tous les pays. Je dis, j'ai compris. Mais il y a des brebis que Dieu m'a confiées d'abord. Vous suivez? Mais ça, c'était, pour moi, c'était accidentel. Mais c'est aujourd'hui que je comprends qu'en fait, la gloire ne peut pas descendre. Ou si elle vient, tu ne la verras pas. Parce que tu n'étais pas prête à l'accueillir. Quand Jésus allait venir, il a fallu Jean-Baptiste pour préparer sa venue. La gloire doit être précédée par un travail de préparation. Et la préparation, c'est ce que Jéthro est venu dire à Moïse. La préparation, c'est celle que Dieu te dit maintenant. Tu n'es pas prêt à ce que tu t'apprêtes à voir. Tu t'attends à des choses, mais tu n'es pas en train de te préparer pour les vivre. Tu rêves d'entreprise, mais tu ne sais même pas comment on parle à un employé. Tu n'appelles pas ton langage. Tu veux t'asseoir avec des directeurs, mais tu veux écrire des courriers, mais quand tu écris, tu fais une ligne, il y a 70 fautes dans une ligne. Frère, mets de l'ordre. Parce que tu vas être confronté à des choses où tu devras écrire et signer, monsieur le directeur. Qu'est-ce que tu fais? Refais tes dictées. Prends des gens pendant la période. Tu vas dire, j'attends la promesse, j'attends la promesse, j'attends la promesse. Tu fais une ligne, il y a 70 fautes, qui va te donner un contrat? Quelle promesse tu veux? Quand la bénédiction va arriver, on dit, frère, il semble que tu sois un bon technicien, viens prendre le marché. Et puis on dit, fais ton appel d'offre, fais ta proposition, et puis tu écris. Donc c'est là maintenant que tu demandes aux gens, les gars, comment on écrit même, comment on fait? Quand tu envoies des gens, on dit, ah. Mais quand tu viens à la réunion, parler même avec les gens, on dit, André, on s'est trompé, les gars. Il faut chercher quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Et ce n'est pas que Dieu ne t'a pas répondu. Tu es en train de dire, depuis là, je fais longue attente. Mais tu as tué l'enfant à sa naissance. Parce que tu n'étais pas prêt. Quand il est arrivé, il n'y a rien pour le garder, rien pour l'entretenir. L'enfant est mort. Ta promesse est morte. Donc plusieurs retardent leurs promesses tout simplement parce qu'ils ne savent pas préparer leur tête et leur corps et leur attitude à l'accomplissement de la promesse. Prépare-toi à la rencontre, à la visitation de ton Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. On va se tenir debout. Le Seigneur a dit, on a dit deux choses. Accepte de t'abandonner, accepte la visitation de Dieu. Dieu va t'envoyer un encouragement aujourd'hui. Accepte le temps de l'attente. Mais comprends que l'attente vient pour que tu t'organises. Viens pour que tu puisses sentir que Dieu t'a visité. Viens pour que lorsque la grâce va venir, que tu puisses la prendre, que tu puisses la prendre et non la laisser partir. Le vase dans lequel Dieu veut mettre ce que tu attends, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Il n'y a pas de préparation pour ça. Tu es dans le rêve. Mais tu n'as pas élargi l'espace de l'attente pour accueillir les nombreux enfants que tu t'apprêtes à recevoir. Dis à Dieu, Seigneur, parle à Dieu, parle à Jésus. Selon ce que tu as reçu dans ce message, parle à ton Seigneur. Chacun à son niveau est quelque part dans un désert de longue attente. Et si tu es dans ce désert de longue attente, tu as triomphé d'Amalek, tu as accepté le temps, mais maintenant prépare l'arrivée. La promesse. Merci Père pour ta grâce divine. Merci parce que tu disposes nos cœurs et notre être. Tu parles à notre esprit, Jésus. Prianda bradison toro do broshi karababa yandara da bros. Prae de gloria anda bradison toro do broshere babara la rianda bros. Prae de gloria anda bradison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur, merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous aides à grandir avec toi. Tu nous aides à reconnaître ta voix qui vient nous soutenir dans les temps difficiles. Tu nous aides à comprendre, Seigneur Dieu, que toute grande promesse prend un temps un peu plus long de gestation. Mais lorsqu'elle arrive, nous devons être prêts. Et une manière pour nous de raccourcir ce temps, c'est de nous organiser. En fonction du rêve que tu nous donnes, de l'espérance que nous avons. Père, nous te supplions aujourd'hui, fais cette œuvre en nous. Nous nous abandonnons entre tes mains afin de saisir la victoire contre Amalek, mais aussi de nous préparer, de nous disposer pour les choses que nous attendons intérieurement. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles. Merci pour tes faveurs, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.
Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message. Car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Mohamed Tsanogo, tels que la mentalité des vainqueurs, retrouver son identité, sont à votre entière disposition. Contactez-nous au 22 41 29 80 ou au 02 61 30 63 ou écrivez-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous vous invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com. Merci et à très bientôt.